franceinter.fr.
Et si la beauté résidait dans la simplicité, c'est à la une de la science aujourd'hui.
La beauté. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris.
Voilà une lecture avec la voix de Guillaume Gallienne, La beauté dans les fleurs du mal, pour parler donc de cette étude française qui montre que notre cerveau aime et trouve beau des visages simples et harmonieux. Bonjour Julien Renaud.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes biologiste de l'évolution au CNRS ainsi qu'à l'Université Paris 1 et vous publiez donc ces travaux originaux dans la revue Open Science de la Royal Society avec cette conclusion. Donc nous jugeons beau des visages qui sont simples à regarder. Qu'est-ce que ça veut dire exactement simple à regarder ?
Alors, simple à regarder, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, en fait, on a étudié plus spécifiquement un aspect seulement du codage du cerveau. Et en l'occurrence, ce qu'on a regardé, c'est le nombre de neurones qu'il fallait stimuler pour représenter un visage dans notre cerveau. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait un lien entre donc le nombre de ces neurones qu'il fallait stimuler et puis la note de beauté qu'on attribuait à ces visages.
C'est-à-dire, il faut beaucoup de neurones face à la beauté ou au contraire, il en faut moins ?
Alors, voilà, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus un visage était jugé attractif, moins, en fait, il le stimulait de ces neurones.
Et comment est-ce que vous avez fait ? Vous avez montré des photos en regardant le cerveau des gens par imagerie ?
Alors non. Alors ça, ce serait l'étape suivante. Dans cette étude, on a montré des photos, en effet, pour lesquelles on avait déjà des notes d'attractivité qui ont été obtenues en montrant ces photos à donc c'était des photos de visages féminins hein, qu'on a montrées à des sujets masculins. Et ensuite, on a utilisé un modèle mathématique donc, qui simule le fonctionnement du cerveau. En fait, les neurones qu'on a étudiés, ce sont des petites fonctions mathématiques, mais qui par ailleurs, une autre étude avait déjà démontré que l'algorithme utilisé ici, qui simule le fonctionnement du cerveau, est une bonne représentation du fonctionnement de cette partie du cerveau qui est en fait le cortex visuel primaire. C'est une petite partie du cerveau.
Est-ce qu'il faut faire dans votre étude une distinction entre un visage beau et un visage attirant ?
Alors, il faut faire une distinction, en effet. Avec les outils qu'on a mis en place, on ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire. Et nous, simplement, c'est une hypothèse qu'on a qui est que ce qui est jugé attirant est également ce qui est beau. Ça, c'est notre postulat de base. Et on s'inspire, en fait, de travaux qui ont été menés en psychologie de l'esthétique, mais essentiellement sur la perception d'œuvres d'art. Cette étude, en fait, s'inscrit dans le prolongement de tous ces travaux qui ont montré déjà les œuvres d'art qu'on avait tendance à trouver belles sont celles qui sont faciles à regarder pour notre cerveau.
Alors justement, est-ce que, Julien Renaud, il y aurait dans cette découverte une explication physiologique ? Parce qu'on aimerait savoir pourquoi, évidemment, notre cerveau aime recevoir des informations qui sont simples pour lui à traiter.
Alors ça, on ne sait pas trop. Ce qu'on a observé, déjà, c'est que un signal, lorsqu'il était transmis d'une manière très fluide dans le cerveau, lorsqu'il circulait rapidement et lorsqu'il il était plus facilement mémorisé, il restait donc plus longtemps en mémoire, mais surtout aussi il activait une région du système limbique qui est responsable, en fait c'est la zone du plaisir. Hein, voilà, ça implique des neurotransmetteurs de la famille des opioïdes, des cannabinoïdes. Mmh. Donc un traitement fluide de l'information est en soi générateur de plaisir. Alors ça a été montré. Après, pourquoi ? On ne sait pas trop. Ce qui pourrait se passer, c'est que, en fait, quels sont le genre d'informations qui sont traitées de manière fluide ? Ben, ce sont les informations avec lesquelles on est familière. Hein. C'est-à-dire notre cerveau, avec lesquelles notre cerveau, au cours des millions d'années d'évolution, a été adapté, également au cours de développement d'un individu. Et si bien qu'un traitement fluide, ça signale un environnement avec lequel on est familier et donc il est bon de continuer d'interagir. Donc dans ce cas-là, la beauté, ce sera un petit signal intérieur émis par notre système limbique pour dire « c'est bon, continuez, là on est dans la bonne voie ».
Vous ne nous avez pas dit du tout ce qu'était un visage facile à regarder. Alors,
oui,
alors ça nous intéresse.
C'est vrai. Oui. Quel est un peu le maître étalon de ce visage incarnant la beauté alors ?
Alors, nous, dans notre étude, on a étudié, donc comme je vous disais, le cortex visuel primaire qui est une région du cerveau qui s'occupe de coder ce qu'on appelle le codage local, c'est-à-dire à l'échelle assez fine. Donc les neurones artificiels qu'on a modélisés s'occupent donc de petits contrastes, de changements de couleur, etc. Donc ce qui va jouer, ça va être par exemple l'homogénéité de la texture de la peau. Donc dans notre étude, typiquement, les visages qui sont qui stimulent le moins de neurones, de ces neurones artificiels, sont les visages avec une peau lisse, peu de rides, des contours réguliers. Voilà. Mais un peu plus haut dans le cerveau, une région qu'on n'a pas étudiée, mais typiquement un visage symétrique va être codé également, va être un signal qui est simple à coder, puisqu'il suffit d'encoder par exemple la région droite et on a automatiquement l'information pour la région gauche. C'est également un signal qui est facile à coder, et ça, il y a déjà des études qui ont montré qu'on avait tendance à préférer les visages symétriques.
Bernard Zalk, notre chercheur en myéline, alors qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de neurones et de beauté?
Non, je pense juste que la notion de beauté change avec le temps. Quand on imagine un peu ce qu'était au XVIIIe siècle, les grandes perruques que portaient les hommes et
les canons de la beauté de l'époque,
oui, étaient différents des nôtres. Donc je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que c'était des systèmes neuronaux qui étaient différents, qui étaient encodés, est-ce que ce sont les mêmes et qui se sont adaptés?
Alors Julien Renaud.
Alors cette théorie esthétique du traitement efficace de l'information, elle s'applique à la fois pour des critères universels de la beauté, donc plus l'aspect perceptuel de la beauté lié à la forme, mais également à la dimension cognitive de la beauté. Par exemple, en effet, les critères de beauté changent. Typiquement, ce qu'on aime, ce sont ce que les gens ont tendance à aimer, ce sont des prototypes. Et des prototypes changent avec le temps. Mais un prototype, on l'aime, encore une fois, on peut interpréter cette préférence pour les prototypes, parce que un prototype, il est facile à retenir, et c'est très facile de classer un stimulus dans une catégorie particulière pour laquelle on a un prototype, donc de l'associer à un prototype. Encore une fois, notre préférence pour les prototypes peut s'expliquer avec la théorie du traitement efficace de l'information. Ça ne veut pas dire que tous les gens aiment le même prototype. Ce qui est universel, c'est le mécanisme, la préférence pour les prototypes, ce qui est le prototype.
Dernière question peut-être, est-ce que ce type de travaux pourrait permettre un jour de donner aux intelligences artificielles la capacité de jugement esthétique?
Ah oui, je le pense, mais alors attention, nous, cette théorie-là du traitement efficace de l'information esthétique n'explique pas toute la dimension esthétique. Dans notre étude, on explique au mieux, alors, 17% de la variation dans les préférences. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'autres facteurs biologiques ou culturels qui influencent également le jugement de la beauté. Mais cet aspect joue, et cet aspect peut facilement se modéliser, en effet, et c'est ce que nous avons fait.
Florence,
et nous l'avons fait notamment avec donc un algorithme qui est un algorithme inspiré en fait de la recherche en informatique et en intelligence artificielle.
Florence Rosier, pour réagir.
Oui, moi je me demandais juste simplement pourquoi dans l'étude on n'avait pas demandé à un échantillon féminin de tester des visages masculins.
Alors c'est vrai, c'était le contraire là pour l'instant, des hommes qui jugent des visages féminins, mais je crois que vous êtes en train de réaliser la suite, hein, Julien Renaud.
Oui. Alors, parce que nous avions à disposition déjà ce jeu de données, hein, de photos, de visages féminins avec des notes d'attractivité pour ces visages féminins, mais nous sommes en train de répliquer l'étude en inversant le rôle des sexes. On s'attend à un résultat vraiment similaire, puisque le codage efficace de l'information dans le cerveau est présent aussi bien dans le cerveau masculin que féminin.
Voilà donc pour les conclusions pour l'instant de cette étude sur les critères universels de beauté. Merci beaucoup à vous, Julien Renaud, pour ces explications. Et Axel, on se retrouve demain, bien sûr, pour une nouvelle Une de la Science.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la première preuve scientifique de l'existence d'exoplanètes daterait de 1917, soit 78 ans avant leur véritable découverte par le français Michel Mayor en 95. En réexaminant les archives photographiques de l'observatoire de Carnegie, des chercheurs londoniens ont eu un véritable choc. Ils ont découvert sur la plaque photographique la trace indiscutable d'une anomalie caractéristique d'une ou plusieurs exoplanètes autour d'une naine blanche. Une information néanmoins impossible à interpréter à l'époque, compte tenu des connaissances très limitées qu'avaient les scientifiques sur ces astres massifs. La prochaine génération de supercalculateurs sera 1000 fois plus puissante et consommera 10 fois moins d'énergie. C'est ce qu'affirme en tous les cas le groupe leader Altos, qui promet pour 2020 des machines capables d'effectuer 1 milliard d'opérations par seconde, bien que le constructeur ne précise pas comment il compte atteindre de telles puissances de calcul. Il précise que ces machines intégreront une architecture flexible permettant d'intégrer au fur et à mesure de leur disponibilité les technologies les plus performantes des années à venir. Le big data a donc encore de l'avenir devant lui. Et puis pour finir, une vidéo impressionnante d'une procession sous-marine de crabes galatés filmée au large du Panama. On peut voir sur les images des centaines de milliers de crustacés entassés les uns contre les autres et marcher sur le fond à plus de 350 mètres de profondeur. C'est la première fois que ce genre de comportement de masse est enregistré pour cette espèce de crabe, si bien que les chercheurs ne s'expliquent pas complètement les raisons de cette marche et de ce rassemblement. La vidéo, en tout cas, est à retrouver sur le Facebook de La Tête au Carré.